Bonsoir. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis très heureux d'être là ce soir pour animer cette rencontre avec Majid Cherfi. Donc Majid, tu as 54 ans. Tu as grandi à Toulouse, dans le quartier des Isards, quartier nord de Toulouse, dans une fratrie de 7 enfants, je crois, si je ne me trompe pas. Tes parents sont arrivés d'Algérie à la fin des années 50. Ils sont kabyles. On te connaît surtout pour ton rôle moteur dans le groupe Zebda. Tu écris les textes de Zebda, notamment. Et c'est vrai que Zebda a explosé à la fin des années 80 et dans les années 90. Tu as par ailleurs, tu es l'auteur de deux albums solo et d'un troisième qui va arriver en février 2017, catégorie Rennes. Et tu as écrit plusieurs livres, dont le troisième, je crois, nous réunit ce soir. Il est sorti en septembre. Il s'appelle « Ma part de Gaulois ». Il est sorti chez Actes Sud. C'est un récit autobiographique. Tu parles de ton enfance. Moi, tel que je l'ai lu, tu dis ce que tu dois à la littérature et à ta mère. Ce sont les deux choses qui m'ont le plus marqué en tant que lecteur. Tu décris une forme de grande violence sociale et culturelle, mais ton style et ta forme n'est jamais violente. Il y a beaucoup de tendresse et d'humour, et ton texte laisse une grande place à l'oralité. Alors, première question très conventionnelle, mais pourquoi ce livre ? Pourquoi tu as ressenti à 53 ou 54 ans l'envie, voire le besoin d'écrire sur ton enfance ?
Alors, le besoin d'écrire, c'est arrivé assez tôt, finalement. J'ai publié finalement assez tard parce que quand j'ai commencé à vouloir écrire un peu plus qu'une chanson, à creuser un petit peu plus, je me suis rendu compte à chaque fois que je trempais mon stylo dans du sang. Parce que quand j'ai voulu évoquer notre histoire d'immigration, dès que j'ai voulu évoquer mon environnement, mes parents, mes grands-parents, la Kabylie, donc l'Algérie, donc la guerre d'Algérie, puis leur voyage à mes parents en France, leur vie en France, donc une vie de bête de somme essentiellement, avec un père souffrant, parce que jamais il n'est rentré un soir de sa vie du boulot en se disant « super, j'ai fait un super truc », mais tout le temps... Connard m'a traité de sale arabe et puis un autre m'a dit sale bougnoul, rentre chez toi. Ça a été la litanie de sa vie de maçon dans les chantiers. Quand j'ai voulu parler de ma mère, je me suis rendu compte que c'était un désastre intérieur, une femme souffrante de n'avoir été qu'une esclave, esclave de son mari, esclave de ses enfants, esclave d'une société patriarcale, sexiste, machiste, et puis une société française qui lui a dit « Écoute, t'es pas chez toi ici, hein, tu restes, mais t'es pas chez... » Et donc, je me suis dit « Mais je vais jamais pouvoir écrire parce que ce que j'ai à écrire n'est qu'une pure plaie béante. » Et donc, longtemps, j'ai fait marche arrière jusqu'à un moment d'apaisement dans ma vie, parce que moi-même, j'avais le sentiment qu'on me reconnaissait dans mon travail d'écriture, dans ce que j'avais à dire ou à écrire. Et donc, cette reconnaissance a amené un apaisement qui m'a permis de prendre de la distance et même, je dirais, d'accéder à un certain humour sur moi-même, sur notre sort, sur les immigrés, l'immigration, d'en rire, parce qu'il y a un moment où il faut bien alléger les choses. Et tout ça fait que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Et donc, avec cet apaisement, j'ai pu commencer à raconter, et donc en y mêlant de l'humour pour aérer mon écriture. Et ensuite, pourquoi ? Eh bien, le besoin, finalement, de raconter une histoire, de raconter aux Français une histoire de Français. Parce que tout au long de ma vie, j'ai eu l'impression que ces immigrés, notamment cette immigration, alors qu'elle soit subsaharienne ou maghrébine, c'est nous entrons en France, nous disparaissons et nous n'y existons jamais. nos grands-parents sur la guerre de 14-18, d'autres pour la guerre de 40, puis pour la guerre d'Algérie, et puis la présence de nos parents en France est quelque chose d'invisible dans le récit français. Nous-mêmes, deuxième génération, on a été les premiers lycéens issus de l'immigration. On est arrivé dans la conscience de ce qu'était l'état de droit, la France, la République, les valeurs. Il y a eu donc ce sommet qui a été pour nous la marche des beurs, dite marche de l'égalité. La gauche arrive au pouvoir, on est reçu à l'Élysée, on vient réclamer l'égalité des droits et on reçoit une carte de résidence de 10 ans. C'est-à-dire qu'après toute cette présence, finalement, un peu comme si on était, bon, on vous accorde un séjour, c'est donc qu'on était en vacances. Et donc ce sont des névroses qui finalement nous pénètrent. Et cette marche des beurs, 30 ans après, elle a disparu de l'inconscient collectif. Elle a disparu elle aussi du récit français. Et je vois de nouvelles générations qui arrivent, à peine nées, prêtes à disparaître, parce qu'elles ne vont pas rentrer dans l'histoire, parce que nous ne sommes pas dans le cinéma français. Nous ne sommes pas dans le théâtre français, nous ne sommes pas dans les conseils municipaux, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, et j'en passe des meilleurs. À part souvent, on me dit, mais s'il y a Najat Belkacem, ou quelques années plus tôt, aussi, mais il y a Rachida Dati. Donc, effectivement, il y a toujours des exceptions, mais qui ne sont pas révélateurs d'une entrée évidente d'une population française en France. Et donc, on vit un petit peu comme si on était à côté. Moi-même, je dois vous dire que quand j'étais en lice pour les différents concours, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis fils d'Algérien et que donc qu'il est temps pour la France de recevoir ces fameux enfants, ces fameux beurs. Et donc, je suis entré dans le doute parce que je n'avais pas la légitimité gauloise. Dieu sait que s'il y a un Gaulois qui vit en moi, mais au moment de recevoir les lauriers de la République, presque, je me suis dit, c'est pas pour ton écriture, c'est parce qu'ils veulent faire une espèce de bienveillance, de symbole. Allez, on va leur filer un symbole. Après tout, Magide, il est sympa. Il aime Flaubert et Brassens. Toutes ces raisons vous donne cette motivation à écrire et à poser la question, est-ce qu'à un moment donné, quand on n'est pas blanc de peau et qu'on n'est pas né dans le bocage normand, on a une chance d'être français ?
Tu veux dire aussi que tu voulais raconter une histoire qui, de ton point de vue, est encore invisible ?
Oui, c'est, est-ce que je vais dans ce que je vais écrire ? Alors, il sert de marteau-piqueur, ce bouquin. Je ne veux pas être invisible, je veux casser le mur. Des fois, on appelle le plafond de verre, mais ça peut être un mur en béton armé. Et oui, c'est vraiment ça. C'est comment trouver l'angle pour casser ce mur. Et donc, voilà, je passe mon temps à trouver des angles pour en tout cas poser la question et dire, y a-t-il des possibles où ça va ressembler à une éternité. Et d'ailleurs, à Toulouse, les gens me connaissant gaulois, pyrénéen, français, tricolore, patriote, je me retrouve après les attentats de Charlie Hebdo dans la manif républicaine où toutes les Frances devaient être là pour sauver la France. Donc j'y vais moi avec mon bleu, blanc, rouge au fond du cœur et je trouve quelques amis de gauche qui me regardent effarés et me disent « Mais vous êtes où ?» Et le Gaulois avait disparu, j'étais redevenu à leurs yeux un arabe, un musulman. Et c'était des gens de gauche. Je dis de gauche, supposé plus avenant vis-à-vis de nous, fils d'Algériens. Ah ! Maudite identité. Et donc oui, là ça a été une espèce de révélation. C'est donc qu'on ne le saura jamais. Si, après avoir gratté ce mur tous les matins de ma vie, comme l'ont fait nos parents, parce que finalement, fils de maghrébins ou d'africains, en réalité, on passe toutes nos journées à essayer de nous accrocher à ce mur. C'est bon, je suis assez français, j'en ai assez fait. Et moi, au bout de tout mon parcours, de gentil petit immigré adorant sa France, j'étais redevenu un arabe ou un musulman. J'ai bien plombé la salle, tu sais.
Hein, on disait que, en effet, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais c'est vrai que ton livre a été sélectionné pour le prix Goncourt. Il a un très gros succès en librairie, il y a beaucoup de papiers dans la presse. Est-ce que ça t'inquiète de devenir un symbole ? Est-ce qu'il y a ce risque ? Et est-ce que parfois, ce que dit une certaine presse de ton livre, a priori, comme ça, des papiers très favorables, mais en retenant seulement certaines parties du livre conforme à une certaine vision de la société, de leur vision de la société. Est-ce que ça t'inquiète ? Le risque de devenir, c'est l'effet pervers du succès, un symbole ou...
Je n'en ai même plus peur, parce que d'aussi loin que je remonte, Zebda, par exemple, ça a été le bon groupe beurre français. D'ailleurs, on disait de nous, on ne disait pas Zebda réussi, on disait les Vlas bien intégrés.
Et on dirait pas d'un français
qu'il a, blanc, qu'il
a, oui, on dirait qu'il réussit,
ou d'un français. Et donc finalement, il y a presque un vocabulaire inventé pour ces autres français. Et finalement, on s'y fait parce que qu'est-ce qu'on peut bien faire quand vous êtes dans un autre langage, dans un autre registre, un peu comme une espèce de sas. Il y aurait les pas français, un sas où il y aurait... Ils sont quand même bien de chez nous, ils sont nés là, ils épousent toutes les qualités du français. Et puis, il y a le sas et... Et puis, il y a celui qui est français parce qu'il est blanc et de culture catholique ou je ne sais quoi. Cette espèce de phrase à la François F. Et je ne prononcerai pas son nom. Je ne veux pas que ce soit trop facile
pour
vous.
Tout le monde aura compris, je pense.
Quand il dit la France éternelle, il a dit hier soir encore. On n'est pas prêt d'y arriver. Quand tu me demandais est-ce que... Hier encore, un homme politique... C'est pas un sauvage, c'est pas un extrémiste. Il dit la France éternelle. Quoique vous douteriez de sa sauvagerie.
Et toi, alors, quand tu entends France éternelle, tu te sens exclu de ce concept ?
Oui, quand il dit la France éternelle, on suppose cette espèce de socle millénaire, donc avec Pépin le Bref, d'accord, Clovis, Charles Martel. Ah, Charles Martel ! Heureusement, plus tard... Quand j'étais adulte, on m'a dit, ne le crois pas, c'est des mensonges. Il n'y a jamais eu de bataille à Poitiers. Ah bon ? En 2017, il s'agit d'être blanc. C'est ça, être français. Alors, je ne vous parle même pas de Nicolas S. Je ne vous donnerai pas son nom. Quand il parle des Gaulois, c'est encore les Arabes et les Noirs dehors. Parce qu'on lit entre les lignes. On lit entre les lignes. Et deux portions de frites pour Mohamed. On sent bien que ce n'est pas deux portions de frites pour Marcel. Et donc, tous ces jeunes issus de l'immigration de la mienne, qui est maintenant quinca, et les plus jeunes aujourd'hui, ont compris. On lit entre les lignes. Chaque fois que vous dites ça, ça veut dire, est-ce qu'il vous serait possible, maghrébins et noirs, de repartir chez vous ? L'air de rien.
Donc, tu penses que c'est un signal qui est adressé... pour toi, c'est un signal qui est adressé à cet électoraliste. C'est une façon de...
Oui, parce que voilà, c'est un discours payant.
Sans assumer ouvertement le côté très excluant de ces concepts.
Ouais.
Ouais. En sous-titre, on s'adresse.
Oui. À la limite, ils seraient pas aussi salauds que leur déclamation. Ouais. Mais du coup, de pas l'être et de l'envoyer comme ça au peuple, c'est peut-être encore plus salaud. Parce qu'il y a un calcul électoral.
Alors, tu dis Nicolas Sarkozy. En effet, il a utilisé ce mot gaulois qui... Il y a eu beaucoup de débats. Toi-même, tu utilises ce mot. C'est le titre de ton livre. Pour toi, un gaulois, qu'est-ce que c'est quand tu parles de ma part de gaulois ?
Donc, Nicolas Sarkozy, il dit gaulois. Alors, il dit gaulois, encore une fois, entre les lignes, ça veut dire je m'adresse à vous, blanc. De cette France profonde, séculaire, catholique. Et par là, pécho les troupes du Front National. Alors, il dit gaulois, et dans la phrase d'après, il dit, mais mon père est hongrois, mon grand-père grec, et peut-être une grand-mère inuite. Il se nie, il nie son identité. Dire, ces gens-là sont prêts à se nier. Et donc, comment voulez-vous vous en sortir? Il se nie pour un gain électoral. Alors que moi, quand je dis mes ancêtres les Gaulois, quand les compères l'ont lu, ils ont ri, parce que c'était de l'ironie. Parce que, d'une certaine façon, je suis Magide ou Mohamed, quand il dit « je suis Gaulois », il y a une espèce de spontanéité à en rire. C'est bien que déjà qu'il y a un problème. Et que donc Gaulois veut bien dire... Et finalement, du coup, quand on me demande ma part de Gaulois, ben, en vérité, c'est ma part de Toulousain, ma part de citoyen du monde, ma part de Berbère, que j'ai envie de conserver. Et j'ai mille parts en réalité, et que mon identité à moi, elle est mouvante et multiple. Et que finalement, notre quête, c'est quand est-ce que les sociétés vont se définir en tant que qu'individu multiple. Il est temps qu'on se définisse comme multiple et non plus comme appartenant comme ça à des choses figées.
Et justement, tu parlais de donc, ta part de Gaulois. Tu parles aussi dans ce livre de ta part de berbérité. Que reste-t-il en toi de cette tradition berbère?
Alors justement, longtemps, les Français, dans leur bienveillance, nous ont dit à nos fils d'immigrés, quelle chance, vous avez une double culture. Et moi, je l'ai cru longtemps, sans savoir ce que c'était. Ah bon, mais super, on a une double culture. Et puis, quand vous prenez du recul et que vous réfléchissez, moi, mes parents m'ont raconté 7 ans d'histoire. Et c'était la guerre d'Algérie, c'était du sang sur les murs et par terre. Et donc, mais de quoi vous me parlez? Le patrimoine qui m'a été transmis, c'est 7 années d'une guerre. C'est pas un patrimoine, c'était un lambeau ensanglanté. Et puis la France, de son côté, elle m'a proposé 2000 ans d'histoire. Parce que ma mère, descendue d'une montagne, savait à peine qui étaient ses parents, qui savaient eux à peine qui étaient les leurs. Mon père, descendu de sa montagne, évidemment, analphabète, ne sachant ni lire, ni écrire, ni l'arabe, ni le français, savait à peine qui était son père. Qui savait à peine qui était le sien. Du coup, la transmission devient une peau de chagrin. Et ce n'est pas vrai qu'on a une double culture. On a une peau de chagrin. D'un côté, je ne parle pas après de... Vous avez des Algériens de la haute société à qui on a transmis toute une histoire. Moi, si je disais à mon père nos ancêtres étaient turcs, il m'aurait mis une baffe dans la tête. Nous, on est turcs, salauds, tfou. Il m'aurait craché à la figure. Et donc... Et donc, premier problème, il y a cette histoire d'identité où c'est pas vrai. Il y a un mensonge de raconter. Je parle pour l'immense majorité de ces immigrés venus bosser ou à l'usine ou dans le bâtiment. Non, ils étaient analphabètes et pauvres et n'avaient pas donc plus de culture que ça. Nous, on n'était pas dotés d'une double culture, comme on nous l'a affirmé, pour nous consoler. Et donc, ce que j'ai compris plus tard, c'est que ma part de berbère, c'était la rancœur de ma mère. La rancœur de pas s'être fait une place ou que la République ne lui ait pas proposé autre chose qu'être une esclave dans une société qui ne voulait pas d'arabe, pour tout dire. Je suis berbère par sa nostalgie d'un pays perdu. Je suis berbère par sa mélancolie, par les quelques mots qui nous reste, parce qu'évidemment, si on a parlé berbère quand on était môme, évidemment, très vite, tout ça s'est perdu. Il ne nous reste que quelques lambeaux que moi, j'ai réappris après, plus tard, parce que j'ai eu envie d'apprendre le berbère. Mais très vite, le berbère s'est perdu à la maison, d'autant plus que nos parents, voulant nous intégrer, parlaient entre eux français. Ma mère disait à mon père, parle-leur français, parle-leur français. Et il ne savait pas parler français, du coup. Et il baragouinait. Et quand j'étais môme, j'allais chez l'épicière et je disais « Bonjour, je voudrais des pommes tétère. » « Ah !» elle a fait. « Il est perdu, le petit Algérien !» Parce qu'elle nous aimait bien, l'épicière. « On dit des pommes de terre. Hein »« Pas des pommes tétère, des pommes de terre. »« Et je voudrais aussi des poireaux. »« Non ! Des poireaux ! Des poireaux, malheureux !» Et donc, déjà à 6 ans, tu débarques comme ça et tu effraies cette femme qui. Il faut vite s'occuper d'eux parce qu'ils partent en vrille. Ils ont à peine 4-5 ans et ils parlent de la soeur. Et je ne vous dis pas le pire après, à l'adolescence, quand ma mère me dit : tu vas à la soukrété, tu montes, tu en étage, tu donnes le cachet du dessert. Quoi ? Et on se regarde, frères et sœurs, mais c'est quoi cette langue de merde ? C'est pas de l'arabe, c'est pas du berbère, c'est pas du français. Mais c'est quoi cette langue que vous parlez ? Je t'ai dit, tu vas à la sécurité, tu montes tes 3 étages, tu donnes le cachet de 17, et pam ! Le cachet de 17, merde. C'était le casier judiciaire. 15 ans après, je l'ai compris. Et donc on vit avec cette langue, effrayée par la langue, d'où l'importance de la langue, et d'où l'envie de s'accrocher. Il faut que je m'accroche à une langue et une vraie, quoi. Et donc c'était une façon aussi d'être motivé sur la lettre française.
Ta mère, tu dis dans le livre, c'est un rouleau compresseur. Tu te décris à quel point elle est autoritaire, opiniâtre aussi, déterminée. D'où lui vient cette envie que vous réussissiez à ce point, et est-ce que cette importance de la mère dans l'élévation, on va dire, des enfants, tu l'as constaté aussi dans d'autres familles à Toulouse, c'est vraiment spécifique à ta maman ?
Je crois qu'on ne saura jamais pourquoi une femme misérable descendue de sa montagne fait tout à coup une fixation sur l'acquisition du savoir. Je dis ça pour avoir vu toutes les autres femmes du souvenir que j'en ai encore. C'était des familles de 7, 9, 11 enfants. Et une mère qui a 11 enfants, faire à bouffer à 11 bêtes, plus le mari qui en compte pour deux, les laver, les soigner, les langer. En plus, il aurait fallu qu'elles aient cette volonté de la... Non. La plupart d'entre elles étaient pressées de voir les mômes atteindre l'âge de 12 ou 13 ans. Et vite dehors, on va bosser, à la fois pour amener du fric, pour aider la famille, et en même temps pour débarrasser les lieux, quoi. Parce qu'on est crevés. Voilà, c'était des femmes éreintées. Et dans les quartiers, vous avez des mères de famille comme ça, dans la même situation. Bon, nous, on était 7, et qui voulaient absolument que ça passe par l'école. Et qu'il y ait... La mienne, en Kabyle, nous disait « Je veux que vous ouvriez la chape. » Elle voulait voir la lumière. Et nous, on ne comprenait pas. « Ouvre-moi la chape. » Et elle me dit « Ne crois pas les mères qui racontent qu'on aime tous leurs enfants pareil. » De Dieu. C'est pas vrai, c'est des menteuses. On en aime un, peut-être deux. Après, on est crevé. Alors, à l'époque, je ne l'avais pas saisi, mais plus tard, j'ai compris. Mais oui, une femme ne peut pas aimer 11 enfants. D'abord, elle bosse. On n'a pas le temps d'aimer. Elle me dit, moi, c'est toi que j'ai choisi. Et donc, tu vas aller ouvrir la chape. Et on sent, à 11 ans, que... Putain, mais j'ai pas envie d'y aller, là-haut. C'est trop dur. Alors, il y avait à la fois le... elle m'amène... Elle m'amène chez le bijoutier pour bien me sceller au contrat. Elle m'amène chez le bijoutier, elle arrache ses deux bagues. Elle les passe au bijoutier, elle me dit « Regarde !» Le mec, il lui file du fric, c'était pour me payer des cours de soutien. Parce qu'il y avait le soutien scolaire gratos, les sœurs, le curé, etc., qui nous aidaient. Et puis, en plus, pour assurer vraiment, des mecs qui venaient à la maison nous aider. Et encore une fois, merde, elle me met la dette sur la tête. Il va falloir rembourser. Mais putain, j'ai 11 ans, qu'est-ce que je te rembourse ? C'est comme ça. Et n'aimez pas les enfants. Quand vous êtes pauvre, vos enfants ne les aimez pas trop. Vous les fragilisez. Si vous avez du fric, ok, vous pouvez les dorloter, les aimer tant que vous voulez, parce que vous aurez les moyens de les protéger. Et presque si elle ne m'avait pas dit, va dire aux pauvres, puisque tu es encore jeune, va leur dire de ne pas trop aimer les enfants. Il faut cogner un petit peu pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient prêts. Parce que le monde qui les attend, aux pauvres d'origine immigrée, et c'est ça qu'elle voulait dire, c'est quelque chose de terrible. Et donc il faut... Alors, terrible.
Et ta mère, alors non seulement elle est autoritaire, mais elle mobilise aussi. tout un réseau dans le voisinage pour tu grandis, tu es très encadré, hein, beaucoup de Français notamment qui t'accueillent, et ça c'est à l'initiative de ta mère qui a réussi à créer cette espèce de, d'environnement propice à...
Voilà. Donc,
Comment ça se passait concrètement
Donc elle a sa stratégie, et c'est d'interpeller tous les blancs qu'il y a alentour. Donc il y a l'épicière, il y a la pharmacienne, la boulangère, la fille de l'épicière, ça c'est le côté sympa. Sœur Annie, le père Daniel, le facteur il passe à la maison, elle l'attire, elle lui offre des cacahuètes, du thé, des gâteaux, pour qu'il vienne corriger la dictée. Et puis elle nous envoie comme ça de famille française en famille française, et en réalité, bon, mais c'est avec beaucoup de recul que je me rends compte de ça, c'est que je passe beaucoup de temps chez des Français. Et je deviens français malgré moi. À un moment donné, je suis là dans ma conjugaison et puis paf, des crêpes. Hey, what is he? Ben, c'est la chandeleur, imbécile. Yes, vive la France! Et je t'étale des tartines. Je vais dans l'autre famille, je fais mes cours de maths et puis je vois des boules de chocolat partout. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Pâques, idiot. Hey, vive la France! Et puis Noël, et on entre dans ce truc-là. Je dis, putain, les Arabes, quoi. Mais on a pas de boule de chocolat, on n'a pas les crêpes, on n'a pas Noël, on n'a même pas les anniversaires. Et j'entre en France de cette manière-là.
C'est très sympa, ouais.
Français. Oui, voilà, le versant sympa de la tradition française. Et donc, et ces gens-là, alors, bon, c'était aussi une époque où... il y avait, entre autres, chez les instituts qui nous recevaient, on va te dire à toi, petit indigène, on va te montrer ce que la vraie France, celle qui élève le citoyen, celle qui donne sa chance. Nous, c'est une école qu'on appelle gratuite, laïque et obligatoire. On donne à égalité une chance à tous les mômes, quels qu'ils soient. On était dans cette espèce de folie, et nous, on veut dire, oui, mais madame, moi, je suis algérien, il me faut un peu plus que ça. Mais en tout cas, il y avait à la fois cet idéal qu'il portait. On sait toute cette page noire de la colonisation, mais c'est pas que ça, la France. Et donc, on nous récupérait par le versant, et il redoublait d'efforts pour vanter l'idéal républicain français, et en même temps, accompagné du sentiment amoureux, parce que on devenait un peu les enfants de ces familles-là, et l'agrément qui était les chocolats, les bonbons, les crêpes, les gâteaux.
Et la littérature.
Et donc la littérature vient petit à petit, parce qu'on commence par l'alphabet, et puis La Fontaine, Camara Lai, quand on est môme, et puis on monte un petit peu, et puis on va s'attaquer à Daudet, on va s'attaquer à Pagnol. Et puis on monte en puissance, et puis pff, au lycée, c'est là qu'il y a Flaubert, Maupassant, Hugo, Balzac. Et finalement, quand vous entrez dans Hugo, vous trouvez un patrimoine, parce que vous êtes vierge, puisqu'il n'y a rien chez nous, ou pas grand-chose. Et quand on me dit pourquoi tu es entré amoureux de cette littérature française, parce qu'elle offrait un patrimoine. Et quand on entrait dans Flaubert comme dans Hugo, ben, il y avait le sentiment amoureux, la désespérance, la lutte des classes, toute la vie était là. Et j'y suis entré comme, voilà, un peu comme...
À tes risques et périls, parce que tu décris très bien que lire dans le quartier des Isards, c'était compliqué.
Quand on était môme.
Pourquoi ?
Et ben parce que, justement, comme j'avais tout ce rouleau compresseur, j'arrivais à me faire une place en classe, et je passais les caps du CP au CM2, etc. Les apprentissages se faisaient correctement parce qu'il y avait un rouleau compresseur derrière qui nous aidait, et la grande majorité de mes potes n'avaient pas ça forcément, et donc ils décrochaient. Et moi, au fur et à mesure de mon érudition, j'entrais dans ma rue et je faisais la différence entre un passé simple et un imparfait. Eh ben, tu parles comme un Français, PD. Et à 6 ans, 7 ans, tout de suite, c'était ça. T'es Français. Tu renies ta race. Tu renies le prophète. Et PD. Donc je dis PD, c'était pas la connotation homosexuelle, c'était...
Oui, c'est l'insulte.
Voilà, l'insulte.
Quoique, on en parlait tout à l'heure...
Pas viril.
On investit quand même la virilité, peut-être parce qu'on se sent socialement fragile. Je disais, on s'en parlait tout à l'heure, peut-être aussi qu'on investit la virilité, PD et tout ça, parce qu'on se sent socialement désarmé.
Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc moi, très tôt, je comprends qu'il y a quelque chose qui se déchire entre moi et les autres. Donc c'est la langue. Et je comprends qu'ils y font guerre parce qu'eux n'ont pas accès au code de l'apprentissage. Et donc, puisque je n'y ai pas accès, je vais brûler tout ce à quoi je n'ai pas accès. Souvent, les gens me disent, mais comment ils n'aiment pas le français, ils n'aiment pas les Français. Non, ce n'est pas ce qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'aient pas voulu être dans l'apprentissage. Ils n'y sont pas arrivés. Et puisque vous ne nous avez pas donné les codes, on va tout brûler. Et c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu accès à ces codes. Et puis après, j'ai fait de la provoque en allant jusqu'à ouvrir des livres au milieu de la cité. Et là, bon, c'est là que j'ai failli y perdre les dents, quoi. Parce que c'était trop. Bon, que tu fasses quelques petites phrases bien conjuguées, une gifle, mais que tu amènes un livre, là, carrément, c'est... Je veux dire,
C'est une provocation.
Et donc, cette espèce de virilité, c'est exactement ça. C'est l'arme des plus fragiles. Puisqu'on n'aura pas accès aux mots, on a au moins nos points. Et donc, on va faire la guerre à vous, là, ceux qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire, quand tu as le langage, tu es blanc, tu es français, donc tu es l'ennemi héréditaire. Et donc, on va rentrer en guerre contre ça. Et moi, quand j'ai accédé à l'érudition, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais devenu blanc. Et donc, français. Et quand on a fait Zebda, d'ailleurs, on a pensé, nous, être les porte-parole de la banlieue. Moi, j'ai cru qu'on allait avoir un public beurre et on n'a jamais eu que des blancs. Et j'avais oublié que c'est parce que j'étais blanc moi-même et qu'on ne peut pas à la fois être dans l'érudition, dans le texte et vouloir s'adresser aux parias. Et tu ne peux pas être exclu et dans le spectacle vivant. Et tu ne peux pas être exclu et français. Et tu ne peux pas être exclu et citoyen. Et tu ne peux pas être exclu et vouloir consommer du zebda. Et donc les gens qui venaient nous voir, c'était des gens qui étaient à notre image et qui disaient, bon, nous, on veut bien d'une France cosmopolite. Et c'est ce que nous, on disait. Et donc, on a eu un public...
Qui n'était pas le public des quartiers.
Qui n'était pas celui a priori. Mm-hmm. A priori. Et ce qui parle aux quartiers, c'est des groupes un peu... Ouais. Dans au premier degré, un peu chaud, brûlant, violent. Nique ta mère, parler aux banlieues. Et moi, je me souviens d'avoir écrit Le bruit et l'odeur, et comme me disait l'autre, mais oui, mais t'as vu à l'intérieur, c'est tu dis si je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, il n'y avait pas Dolto. Attends, tu évoques Dolto et tu veux parler aux misérables, va te faire enculer, comme me disait un mec. Et donc, on est dans cette espèce de tiraillement incroyable que de vouloir être des porte-parole et tenir la main à la plèbe,
et en même temps,
et vouloir s'élever, parce que s'élever, c'est mieux se connaître soi, c'est entrer dans les nuances, et les deux ne sont pas possibles. On ne peut pas être avec les uns et avec les autres, en vérité. Je déteste pas ma dernière phrase. Okay. On ne peut pas être à la fois en bas et en haut.
Et on parlait de ta mère. En revanche, dans le livre, tu parles assez peu de ton père. Oui. Ta mère, pour moi, est le personnage principal du livre. En revanche, ton père, il est plutôt en arrière-plan, on va dire.
Comme beaucoup dans ces familles d'immigrés, le père part le matin, est dégoûté d'avoir à faire ce qu'il va faire. Il rentre éreinté le soir et il n'a pas envie de jouer à la marelle avec ses mômes. Et donc il passe crevé, silencieux. Et nos mères sont devenues nos pères, pour l'immense majorité de ces familles-là. Les mères font tout. Donc elles sont les hommes et les femmes en même temps. Et eux, ils font que passer. Et on... Il n'y a pas vraiment l'occasion de se regarder dans les yeux ou de s'adresser la parole pour « je suis crevé ». Et donc, nos mères nous faisaient comprendre d'ailleurs qu'ils étaient crevés et qu'il ne fallait pas aller chercher des câlins ou autres jeux d'enfants.
Ils ont eu connaissance du livre ? T'as partagé avec eux des extraits de ce livre ou comment l'ont-ils reçu ?
Alors non, puisque... Donc, Ma mère ne sachant pas lire ou écrire, évidemment, elle n'allait pas le lire. Elle n'allait pas le lire. Donc mes sœurs se chargent de faire des traductions métaphoriques à la métaphore, de la métaphore. Alors, quand il y a eu un lice pour le Goncourt, elle a trouvé une formule, ma sœur, en cabinet. Et où ça est ? Il est là-haut. Ah ! Ça voulait dire pour elle, il n'aura pas d'oppresseur au-dessus de lui. Et elle se fout, écris ce que tu veux, mais n'aie pas un oppresseur au-dessus de toi. Puisque sa bataille à elle, justement dans cette histoire de savoir, c'est je ne veux pas que des gens vous martyrisent comme on l'a été nous, comme l'a été mon père, comme l'a été... Et donc elle était, elle, dans cette fatalité-là. Et d'une certaine façon, cette chape qu'elle voulait qu'on ouvre, c'était promettez-moi de ne pas avoir un oppresseur au-dessus de vous.
Comment tu commences à écrire ? À quel âge et pourquoi ?
Très tôt, je comprends très vite, moi, que écrire un quatrain, c'est s'approcher d'une fille. Je suis pudique, excusez-moi, hein. Je ne vais pas en dire plus. Puis vous n'avez qu'à lire le livre si vous savez comment tout ça se passait.
C'est plus explicite.
Hein, c'est plus explicite. Et en même temps, ces mecs qui me pétaient la gueule se rendaient compte qu'ils pouvaient aborder des filles aussi avec des poèmes que j'écrivais. Et donc j'écrivais des poèmes pour des copains qui me tapaient dessus, pour qu'ils puissent... Et comme ça marchait, hey, PD, écris-moi un poème. Donc je faisais 4-4-1, les mecs étaient contents, ça marchait bien. Et puis quand les filles ont grandi et qu'elles sont devenues un peu plus qu'adolescentes, ça n'a plus marché les poèmes, parce que tout à coup, il fallait plus le petit amoureux, mais le mec viril. Il fallait le voyou. Et moi, je ne l'étais pas. Mm-hmm. Ouais, tu dégages avec tes poèmes. Et comme je l'écris dans mon bouquin, les filles à cette époque préféraient une tarte dans la gueule à un poème d'Éluard. Et là, c'est là, voilà, l'ironie du sort qui s'est présentée comme ça, quoi.
Mais donc l'écriture, c'est devenu quelque chose de à partir de quand ça devient vraiment quotidien pour toi ?
Je n'ai jamais cessé d'écrire depuis très longtemps, mais alors j'ai par exemple écrit, j'allais de famille en famille écrire des lettres au bled en phonétique, en berbère, en arabe, remplir des formulaires d'allocations familiales, etc. J'allais lire des bulletins scolaires de potes où il y avait marqué « Fais dodo en classe, il est venu avec une canne à pêche lundi matin », etc. Et le mec me regardait du coin de l'œil « Si tu me trahis, tu perds tes dents ». Alors je disais « Très bon élève en classe, assidu, se comporte de manière exemplaire, il a ses félicitations. Waouh ». Donc, il y a eu toute cette période. Il y a eu une période de dossier de subvention pour l'association. Ouais. Donc, il fallait quand même... il fallait une espèce d'écrivain...
Du théâtre ?
Voilà, adolescent, au niveau de l'asso, pour financer nos activités. Donc, il y a eu tout ce travail-là. Puis, des scénarios de films pour les activités vidéo, des petites pièces de théâtre, puis des poèmes pour mon plaisir... j'ai un peu tout abordé, quoi, du feuillet d'allocation familiale jusqu'à Flaubert.
Et aujourd'hui, comment tu écris, par exemple, Ma part de Gaulois ? Il a fallu, tu l'as écrit sur combien de temps ? C'est plutôt concentré ou au contraire, c'est des choses que tu cumules de mois en mois ?
Je vais tout vous dire, mais ne le dites à personne. En réalité, j'avais depuis des années accumulé des scènes, des situations. J'ai rempli des pages et des pages. Et il y a 4 ou 5 ans, j'ai commencé à recoudre un petit peu toutes ces scènes. Et puis Zebda m'a rappelé parce que ces messieurs avaient envie de faire de la scène, donc j'ai tout abandonné. Et on a fait deux albums ces 5 dernières années, 2 tournées. Je suis rentré chez moi, et dans le tiroir, il y avait 400 pages à déchiffrer, à corriger. Ah ! Non ! Et donc, il y a un peu plus d'une année, j'ai repris ma première bouture d'il y a 4 ou 5 ans. Et donc, je me suis mis à la recoudre. J'envoie mon premier exemplaire chez un monsieur dont vous tairez le nom. Il s'appelle Bertrand Pi. C'est le maître littéraire de chez Actes Sud. Alors, comme on est quand même, tous les gens qui écrivent sont un petit peu prétentieux. Dans un premier temps, vous dites, je vais envoyer 500 pages. Parce qu'on se dit, il y a un peu de Victor Hugo en moi. Mais eux ne sont pas fous, les directeurs littéraires des maisons d'édition. Ils me renvoient la copie. des dizaines et des dizaines de pages rayées. Il me met, tu fais l'écrivain ? Point d'interrogation ? Sois-le ! Merde ! Et donc sur trois étapes, comme ça, je me fais allumer. Mais tu arrêtes de faire l'écrivain ? Sois-le, on t'a dit. Et donc, il faut tout simplement enlever 150 pages. Et donc, malheureusement pour vous, pour votre plus grand malheur, il n'y a plus que 270.
Tu parlais tout à l'heure de la marche des beurs, c'était il y a un peu plus de 30 ans. On parlait de multiculturalisme, de cosmopolitisme, d'idéaux républicains. Aujourd'hui, quand on te parle à nouveau de multiculturalisme ou d'idéal républicain, comment tu te positionnes par rapport à ces... est-ce qu'il y a une part de dégoût par rapport au fait que finalement les promesses n'ont pas été tenues ?
Une part désabusée, je dirais, ou désespérée, parce que finalement, c'est le problème au fond, pour tous ces gens qui sont d'une immigration maghrébine ou africaine, c'est est-ce qu'il faut toute la vie aller accrocher nos ongles à un mur pour obtenir une éventuelle légitimité ? Est-ce qu'on va rentrer dans un récit français ? Et donc, le précipice, au fond, entre guillemets, les Blancs et tous ces autres Français, parce qu'ils sont Français, c'est dans le regard de l'autre qu'on ne l'est pas, et c'est ce fameux regard de l'autre qui ne bouge pas. Et donc, on sent cette illégitimité qui nous fait faire marche arrière. Et c'est pour ça qu'on est à la fois... dans la défense des valeurs républicaines et en même temps dans la retenue, parce que vous êtes républicain quand vous voulez. La République, alors il y a un moment tu me veux arabe, un autre moment tu me veux musulman, un autre moment tu voudrais que je m'appelle Gilles, en ce qui me concerne, plutôt que Majid. Oui, parce que j'ai été chez un ami quand j'étais ado, il me présente son père qui lui dit voilà, Majid. Excellent élève, un littéraire d'exception. On était en terminale, je crois. Terminale A5. Ah oui. A5. Je pensais, moi, trouver des passionnés de littérature. C'était une armée de branleurs. Shit, bière et je sais plus quoi, les filles. Et donc, j'étais assez déçu. Vous êtes décevants, les copains. A5. Et là, je vais perdre le fil en vous racontant cette histoire. Donc, je retrouve le père de mon ami.
Le père de Thierry.
Oui. Et bref. Et il me dit comment tu t'appelles ? J'ai dit Majid. Ah, c'est un peu compliqué. Je vais t'appeler Gilles. Il me dit. Et donc moi, dans mon petit coin, je me dis, c'est la première fois que le gros mot m'est revenu dans la bouche, le con de ta mère. La rue qui revient, parce que la rue ne vous quitte jamais.
Mais elle ne te quitte jamais, elle t'inspire. Parce que c'est l'un des charmes de ce livre, dans l'écriture.
Oui, elle m'inspire parce que je veux rester l'enfant de la rue que j'ai été. Et je veux pouvoir être, l'auteur que je suis. L'auteur a besoin donc d'un apprentissage, d'une initiation littéraire. Et pour ne pas me perdre... Moi, j'ai besoin aussi d'être l'enfant de la rue. Et finalement, je dirais que ma littérature, en réalité, c'est la tentative de rester l'enfant de la rue dans un verbe cru, comment on dit chez les intellos, truculent. Voilà, être truculent et donc avoir une espèce d'érudition à des moments donnés. Et puis tout à coup, non, je reviens à la rue, puis je reviens à la rue. Et donc c'est ma littérature à moi est une espèce de montagne russe finalement.
Mais alors, ma précédente question portait sur la République. Est-ce que tu crois toujours à l'idéal républicain ? Question directe.
Mais justement, alors je ne peux pas répondre dans la négative ou de façon positive parce que on est à la fois dans ce désir de république et en même temps dans l'affrontement parce qu'elle sélectionne. Elle ne prend pas toute la famille, elle ne prend pas tout le monde. Et on se dit, bon, cette universalité, un peu à l'image de la période de colonisation, si vous voulez, où vous étiez dans la République, mais avec des citoyens de seconde zone, voilà, où on était à plusieurs étages. Et donc, c'est une espèce de schizophrénie, plutôt, qui font la haine, l'amour, la haine, l'amour. Et c'est ce mouvement-là qui m'identifie. Donc, la République, c'est, bon, ben... va-t-elle un jour avoir un vrai visage universel ? Est-ce qu'un enfant noir de peau sera une évidence dans la rue française ? Est-ce qu'il sera identifié ? Parce qu'on va se fier à autre chose qu'à l'origine, qu'à la couleur de la peau, qu'au nom. Et donc, cette demande de redéfinir la francité en quelque sorte. C'est quoi être français désormais ? Et voilà. Et ce qu'on propose, c'est l'idée multiple. Est-ce qu'un peuple peut s'identifier dans la multiplicité ? Et donc voilà, pour te répondre, c'est, je dirais. Voilà.
Je crois aussi que tu trouves la République trop bavarde, trop. Trop abonné aux grands mots, aux grandes idées, peut-être pas assez concrète et attaché au respect des droits, tout simplement.
Alors voilà, là, son plus grand défaut, désormais, après avoir bassiné des générations de gens dans sa promesse, l'incantatoire est devenu le premier ennemi de celui qui n'a pas droit à la République. Et donc, plus elle va... voilà, faire l'incantation de l'égalité, de la liberté, plus c'est dit et moins c'est cru. Voilà ce qui se passe avec les nouvelles générations. Et c'est pour ça qu'il y a un affront bien plus direct désormais avec les nouvelles générations d'immigrés qu'avec nous-mêmes qui, au début des années 80, avions cru, puis c'était l'arrivée de la gauche, et les copains de gauche nous disaient à l'époque « Vous allez voir avec la gauche au pouvoir, vous les Arabes, ce que c'est que la fraternité vraie ». Et on a attendu, on ne l'a pas vu venir. Et les mômes aujourd'hui, nos petits frères ou nos enfants, nous regardent en nous disant « Eh, vous l'aviez cru, là, votre truc ? Vous êtes bien fait baiser. » Et on en est venu à cette idée de « Ces blancs-là, ils ont découvert des mots qui sont une arnaque. » Entre autres, liberté, égalité, fraternité.
Tu es toujours... engagé politiquement, mais au-delà des prises de position, je veux dire, tu es toujours actif dans le champ politique, parce que Zebda l'a été, tu l'as été aussi dans les années 2000.
J'ai une amie qui m'est très chère qui m'a dit finalement tu es activiste, parce que j'ai finalement menti longtemps aux gens en faisant croire que j'étais militant, parce que j'étais dans une bande qui militait, et en vérité j'étais moi le poète de la bande, et j'ai fait le militant parce que je participais d'un mouvement généreux. Et qu'en vérité, voilà, je dirais que ma vérité est d'être dans une défense des idées à travers la création. Voilà.
Alors je disais tout à l'heure que le livre il a un très gros succès. Tu es récemment, alors un succès qui va bien au-delà de ton public, je pense, habituel. Tu as été récemment reçu par Alain Finkielkraut dans son émission sur France Culture. Il n'y a pas si longtemps, Nicolas Sarkozy aussi citait un texte que tu as écrit.
Alain Finkielkraut,
peu après les attentats du Bataclan. Comment tu vis cette extension finalement de ton audience et de ton public à des gens qui, a priori, ne sont pas du tout dans ton champ politique ou
Non, ce qui m'intéresse, c'est de me dire ce bouquin interpelle. Je ne sais pas qui il interpelle. J'ai une petite idée, mais j'ai voulu mettre la main dans cette chose-là qui peut être douloureuse. On peut rire et il peut être douloureux à lire aussi, hein, c'est les deux. Et donc, il y a des gens qui se posent la question de cette putain de fraternité. Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Pourquoi ? On ne la met pas en place. Pourquoi elle n'existe pas ? Et pourquoi, en vérité, il y a le mensonge d'une France black-blanc-beurre qui n'existe pas ? Les blancs vivent entre blancs, les blacks entre blacks et les beurres entre beurres, à quelques exceptions près. Et que ça devient quelque chose de douloureux pour des gens qui ont envie. Mais ce truc qu'on appelle vivre ensemble depuis une éternité. Et donc, Bon, alors il y a ce bouquin, mais il y a plein d'autres choses qui existent, qui viennent éclairer un peu le ou pourquoi ça bloque ou comment on pourrait avancer. Et c'est vrai qu'on est endolori désormais parce que fatigué de ne pas pouvoir voir plus d'espace fraternel.
Merci, Majid Chafi. Alors, juste un mot de conclusion pour vous remercier d'être venu, pour remercier Majid Chafi, pour vous encourager. Si vous ne l'avez pas lu, à lire ce livre, il est vivifiant, il est sensible, il est brillant. Vraiment, c'est un beau livre. Et merci pour ce soir, Majid.
Merci, Julien.